Mes chers collègues, je trouve que c'est un excellent budget d'une communauté d'agglomération. J'ai parfaitement conscience qu'il faut du temps pour monter en puissance, mais une fois n'est pas coutume, je rejoindrai ce qui a été dit par un précédent orateur. Nous avons à monter indéniablement en puissance pour faire naître ce que j'appellerais ce désir de métropole. On peut le faire naître, ce désir, par la force des projets métropolitains qu'une métropole peut porger. Je ferai d'ailleurs une parenthèse pour revenir sur le sujet de l'université, Monsieur le Président, qui est un vrai sujet. Un outil d'une métropole, c'est pour ça qu'il serait peut-être important, Monsieur le Président, aussi de suivre ce débat sur le site Messin. Et je note d'ailleurs au passage que Nancy, c'est 5,5 millions d'investissements pour l'enseignement supérieur et la recherche, et nous sommes à peu près à 900 000 euros. Tout ça, c'est un ensemble qui, je crois, montre quand même qu'il y a une réflexion à avoir. Alors, ce désir de métropole, c'est aussi la fiscalité. La fiscalité. Et permettez-moi d'être pas aussi emballé par votre vice-président finance sur la baisse de la TEOM, parce que je pense qu'elle nous était tout simplement imposée. Le législateur avait une tolérance jusqu'à présent qui était d'avoir 15% de recettes en plus que les dépenses. Cette tolérance a disparu. Donc, nous sommes contraints, quelque part. Nancy, dont on nous a dit qu'elle était endettée et imposée, ce qui est vrai, la métropole nancéenne, baisse aussi sa TEOM. Alors, elle ne la baisse pas pour aggraver sa dette et l'imposition des métropolitains nancéens. Elle la baisse parce qu'elle n'a pas le choix non plus. D'accord ? Ou alors, on a le cas de Lille, qui a appris ce matin qu'il devait rendre 35 millions d'euros en raison de cette application nouvelle de la taxe sur les endures d'enlèvement ménagère. Donc, je pense que là-dessus, c'est très bien que nous ayons une baisse sur la TEOM. Mais je crois que le vrai signal de fiscalité ne sera pas celui-ci. Et il y a effectivement des réserves qui ont été mises en avant. Je pense que le vrai signal de fiscalité, il aurait dû être ailleurs, si tenté qu'on voulait présenter ça comme un signal de fiscalité. Alors, c'est juste de se comparer avec les grandes villes du Grand Est, telles que cela a été montré, mais pourrait aussi d'ailleurs se poser la question de la comparaison de nos différents taux avec les intercommunités voisines, parce qu'elles, c'est ce qu'elles regardent. On n'arrivera jamais à une convergence, parce que nous n'avons pas les mêmes charges de centralité, nous sommes parfaitement d'accord. Mais ils attendent des signaux de notre part là-dessus, je pense. Et nous, on en a donné ces derniers temps qui sont plutôt inverses. C'était le débat sur la taxe sur l'électricité, c'est la raison pour laquelle j'avais déjà demandé à l'époque que nous réfléchions à tout ça, parce que notre métropole, pour qu'elle puisse aller même au-delà, ce qui est mon souhait, devra de nouveau, de toute façon, poser ces questions, inévitablement. Donc, Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire sur ce budget 2019.
Merci, Monsieur Krosner.
Gilbert. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons consacré un long moment de débat sur le sujet lors du dernier Conseil des communautés sur le sujet de l'université. Il s'est d'ailleurs même poursuivi par voie de presse, ce qui montre que c'est un débat important au niveau de notre métropole. Cependant, je voudrais dire que je ne valide pas l'idée d'une polémique territoriale avec l'Université de Lorraine, ni une relance du débat d'opportunité de la naissance de l'Université de Lorraine en 2012. Metz Métropole se situe absolument dans ce débat et rien n'a jamais remis ni ne remet en cause pour l'avenir le processus qui a positionné notre territoire dans l'aventure de la nouvelle Université Lorraine. Des grands projets ont vu le jour à Metz Métropole depuis la création de l'Université Lorraine en 2012 et sont liés pour partie au contexte de dynamique créée par l'Université de Lorraine, mais aussi par le discours convergent des institutions lorraines, il faut le rappeler ici ce soir. Pour le reste, Monsieur le Président, chers collègues, osons affirmer combien nous avons tous ensemble contribuer au renforcement du potentiel de notre territoire depuis 2010, grâce à notre travail institutionnel et à nos choix de soutien à des projets importants. Je redis le plan Campus, l'Institut Lafayette, l'IRTM2P, le CEATEC, les projets de recherche, le Centre Pierre Janet, le nombre de transferts de technologies, etc. Certains dossiers se sont traduits par des aides financières conséquentes. Nous l'évoquons souvent ensemble, mais je rappelle les chiffres. Plus de 261 millions d'euros investis depuis 2010 au titre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, auxquels nous avons contribué pour 21 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est 1 euro de Metz Métropole pour 12 euros investis. Donc, c'est un effet levier important. Nous entamons une période charnière et complexe. Sans revenir sur le débat avec l'Université Lorraine, je réaffirme qu'il est temps de construire un bilan constructif et d'interroger les conditions et les moyens de travail local avec l'université. Notre statut de métropole implique non seulement que nous ayons à consolider un bilan, mais surtout, et nous devons activer un développement lisible, durable et mesurable à moyen terme du site Messin de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il faut deuxièmement affirmer un campus Messin lisible dans le projet de l'Université de Lorraine et dans le projet des écoles nationales implantées à Metz. Et troisièmement, affirmer l'université et les acteurs académiques ou technologiques de Metz Métropole comme de véritables leviers de la créativité métropolitaine. L'année 1919, mes chers collègues, sera de nouveau une année de grands projets. Je voudrais en rappeler trois. Le premier, c'est l'amorce de la restructuration du campus du Saulcy, avec une étude de faisabilité et de programmation en cours. Si vous voulez, un jour, on pourra présenter le projet de développement du site de Saulcy. Deuxièmement, c'est le soutien au pacte grande école pour nos 4 écoles d'ingénieurs. Avec un effort sans précédent sur 2019 et 2020 de 650 000 euros sur 2 ans, bien sûr. Et la mise en œuvre du plan d'action d'Avot Metz Campus. Et enfin, la poursuite de nos efforts pour les projets de recherche, de formation, le déploiement du campus de Georgia Tech et de l'Institut de Lafayette pour le développement des colloques et des grands événements scientifiques. Voilà ce qu'on trouve dans le budget. Alors, notre débat du mois dernier a démontré que nous partageons l'enjeu du développement universitaire, des formations supérieures et d'ingénieurs, de la recherche et de l'innovation pour notre territoire et plus largement pour tout son bassin sociologique. Je voudrais dire à Jérémy Aldrin que le budget 2019 pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, c'est de 2,4 millions d'euros. Voilà. Et je trouve que ça maintient quand même l'effort important financier de Metz, y compris par rapport aux années précédentes. Alors, je voudrais dire aussi, si on se compare au Grand Nancy, on peut se comparer, moi, mes chiffres, on est à peu près aujourd'hui au même niveau du Grand Nancy, si on tient compte de l'investissement. Voilà, il faut voir comment on présente les comptes, mais on est pratiquement au même niveau, si vous voulez, un jour, dans la commission enseignement supérieur, recherche, innovation et économie, on pourra présenter en détail la comparaison, les comparaisons entre Metz et Nancy et d'autres métropoles. Pour conclure, chers collègues, il nous appartient, d'une manière générale, de mieux donner corps et résonance à un débat constructif du territoire sur les multiples défis dont nous sommes acteurs. Merci.
Merci beaucoup, Dominique Gros.
Bien. Quand on examine un budget, il y a des endroits où on est un petit peu désappointé et il y a des moments où on se dit... Quel chemin parcouru depuis 11 ans, puisque ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Alors moi, je vais d'abord dire la satisfaction du chemin parcouru. Parce que finalement, ce budget, c'est un budget métropolitain. On vient d'avoir un très bon exemple avec l'enseignement supérieur, il y en a d'autres. Et il y a des tas de sujets sur lesquels on n'intervient pas. Et en même temps, je voudrais, pour certains sujets, exprimer des envies pour la suite. Parce que je pense qu'on a des marges de progression sur un certain nombre de sujets. Alors d'abord, dans les satisfactions, moi je voudrais signaler ici, parce que ce n'est pas dit, qu'effectivement, une partie de notre dette, elle est ailleurs, parce qu'on a créé la SEM Technopôle. Et cette SEM Technopôle, et on a créé également une SPL pour le centre de congrès, et ça c'est du bon travail. Parce que justement, on est capable, nous sommes capables, de nous doter d'outils qui trouvent leur logique financière à côté du budget. Et c'est justement quand on est incapable de ça qu'on alourdit les systèmes de dépenses. Regardez la remarquable opération du centre de congrès. On n'a pas dépensé un sou de trop. Il est parti, Thierry Jean. Sinon, je l'aurais rendu hommage, mais là, je peux le faire en son absence. et on a même encore 300 000 euros disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les outils de cette nature sont capables de donner des meilleurs résultats que si jamais on avait géré nous-mêmes, parce que vous savez bien que quand on gère des opérations de ce montant-là, il est rare, voire il est très rare qu'il n'y ait pas des dépassements. Et donc, ces outils-là sont pertinents. La SEM Technopole, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on va gérer Blida. On va faire 11 millions d'investissements. Ce ne sera pas dans les comptes directs de Metz Métropole, même si Metz Métropole est en garantie, ainsi que la ville de Metz. Donc, ce sont des façons de travailler qu'il ne faut pas négliger, au contraire, en être fier. Moi, je voudrais intervenir d'abord sur l'atome. Effectivement, Jérémy Aldrin a raison. On est obligé de baisser l'atome. On est obligé de baisser l'atome parce qu'on avait trop de rentrées par rapport aux dépenses correspondantes. On est censé avoir un équilibre approximatif, mais un équilibre maintenant en ce qui concerne la gestion des ordures ménagères. C'est comme pour l'eau, etc. On n'a pas le droit de prendre là pour remettre là. Alors, moi, j'avais posé des questions, et je voudrais revenir. J'avais posé des questions parce que, effectivement, j'ai fait le calcul, là. Hein. La ville de Metz, ce n'est que 55% de la population de la métropole, hein. Que 55%. Mais les ordures ménagères, c'est plus de 70%. Tout simplement parce qu'il y a les restaurants, il y a les activités de centre-ville, etc. Et donc, on a un véritable problème massif. Et puis, manque de chance dans l'organisation de la gestion et de la modernisation du système, eh bien, on est passé en dernier. Et on est passé en dernier parce qu'on a encore beaucoup d'investissements à faire et ils sont demandés par la population. C'est d'autant plus demandé qu'il y a une spécialité chez un certain nombre d'élus, les mêmes dont j'ai parlé tout à l'heure qui dénigraient leur propre ville, qui consiste à faire des photographies dès qu'il y a des sacs poubelles qui sont installés à côté d'un point d'apport volontaire et de se gausser. Ah, c'est formidable! J'ai trouvé un tas de sacs poubelles à côté d'un point d'apport volontaire. Je suis un grand militant de l'opposition et je le fais passer sur Internet en disant « Voilà la constructive opposition de la ville de Metz. » Alors, on en a plein, hein, et ils croient que comme ça, ils vont gagner la guerre. Bon, je les rassure, ça va être difficile quand même. Mais je ne maîtrise pas tout à fait ces remarques parce qu'il y a des réalités. J'ai expliqué ici que je souhaitais qu'il y ait un cadencement d'investissement important. Je dois dire ici en public que j'ai vu un changement important, je salue les gens qui s'en sont occupés, un changement important dans la prise en compte des demandes de la ville de Metz. J'ai vu un changement important. On m'a présenté un plan, on m'a présenté un calendrier avec c'est pas toujours simple parce qu'il y a le sous-sol, il y a l'archéologie, il y a tout un tas de choses, mais on a avancé. Cela dit, on est encore loin du compte. Ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel Toulouse, vous allez dans des quartiers où on est encore, et c'est 2000 habitants, et puis pas question de point d'apport volontaire, hein, vous vous faites comme avant, vous vous débrouillez avec vos systèmes, etc. Je pense qu'il y a besoin de continuer à investir fortement dans la gestion technique des points d'apport volontaire et de tous les dispositifs. Il n'y a pas que ça, parce qu'il peut y avoir des magasins qui sont... Il paraît qu'on va en avoir bientôt, donc moi, je suis très intéressé de le voir avec des bips pour ceux qui sont habilités à rentrer pour mettre leur sac. Parce que, si vous voulez, des endroits où il y a 15 restaurants, hein, vous avez beau dire et beau faire, s'il y en a un qui a un gros sac un jour, il n'arrive pas à le rentrer, il le met à côté, les autres pensent que c'est plein, et hop, vous avez un gros tas le lendemain, vous recevez également des photographies des voisins, etc. Dominique, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc ça, c'est la vie d'un maire. Hein, j'ai fait du porte-à-porte dans tous les commerces, dans la totalité des restaurateurs, pour leur demander d'aller le mettre là-bas. Et ils y vont, parce qu'ils ont un peu peur des amendes. Hein. Mais cela dit, quand c'est plein, c'est embêtant. Alors, j'ajouterais qu'il n'y a pas que l'investissement.